Voilà, on va ouvrir ensemble nos Bibles. Et si vous avez une Bible devant vous, ouvrez-la dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. Et nous allons passer les trois prochains messages, les trois messages qui vont demeurer pour ce week-end de rentrée, ce beau week-end entre nous que nous allons passer ensemble, sur ces quelques versets, Luc 22, 31 à 32, qui vont nous parler de cette grande victoire que Christ a acquise à la croix pour nous. Luc 22, 31 à 32. Jésus leur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Je vais simplement prier. Seigneur éternel, nous voyons les prétentions de Satan qui viennent s'exercer jusque sur notre foi, sur notre âme, et il voudrait nous entraîner avec nous, si c'était possible, jusque dans l'extrémité la plus profonde de ce puissant fond dans lequel tu vas l'enfermer pour l'éternité et dans lequel il a déjà un pied, Seigneur. Et si c'était possible, il voudrait séduire même les élus. Mais nous savons que nous avons un Sauveur, un grand Dieu, l'Éternel notre Roi qui s'est manifesté en chair, en la personne de Jésus-Christ, que son nom soit béni éternellement. Et nous sommes devant toi pour t'adorer ce matin, et nous voulons tourner nos regards vers ta parole, Seigneur, pour être encouragés puissamment par toi. Oh, nous ne voulons pas être ignorants et voir la vie en rose, comme si toute cette vie devait être prise avec des comprimés pour éviter la douleur, Seigneur. Nous savons que le diable rôde et que nous allons souffrir. Mais nous voulons nous confier en toi pour nous souvenir que Christ est vainqueur et vivre cette victoire dans notre vie au quotidien. Père Céleste, délivre-nous des ruses et des influences du diable et que nous marchions en nouveauté de vie, conscients que Christ est vivant et qu'il est le victorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelque temps de cela, j'ai reçu un email de nos amis qui se trouve au nord du Mali. Vous savez qu'au Mali, vous avez différents groupes ethniques, et dans le nord du Mali, notamment dans la ville de Gao, se trouve une communauté tamashek, c'est-à-dire ce sont des Touaregs, et ces tamashek sont tous d'anciens musulmans qui se sont tournés vers le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Al-Qaïda et le Mujao ont déboulé, il n'y a pas longtemps de cela, dans le nord du Mali, qu'ils ont pris le contrôle de villes comme Kidal et Gao, nos amis ont dû être déplacés jusqu'à Bamako, à peu près 300 chrétiens, et au milieu d'eux, il y avait un dénommé Mohamed Yatara, qui était le président de l'Institut biblique de la boucle à Gao. J'ai reçu un email de Mohamed Yatara il y a quelques mois de cela, qui nous informait de la mort à Bamako d'un dénommé Alassane Aladi Maïga. Alassane Aladi Maïga, qui est décédé à Bamako, il était le vice-président de l'Institut biblique de la boucle de Gao. Et dans son éloge funéraire, dont il avait mis une copie, Mohamed Yatara avait dit que M. Maïga n'avait pas d'ennemis et qu'il était mort en paix. Et je crois que parmi vous, il y a d'excellentes personnes, bien meilleures que moi en termes de moralité, de disposition de caractère ce matin, et peut-être certains parmi vous n'ont pas d'ennemis. Et comme M. Maïga, peut-être vous vous dites, moi je n'ai pas d'ennemis. Mais vous n'avez peut-être personne pour s'opposer à vous dans ces affaires terrestres. Mais vous avez au moins un ennemi qui en veut à votre âme. Chers amis, le chrétien n'est pas chez lui dans ce monde. Pierre nous dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, non pas comme le serait un touriste ou un migrant. Nous sommes plutôt cette sorte d'étrangers que les Israélites étaient en Égypte ou lorsqu'ils étaient déportés au pays de Babylone. Bien souvent, nous voyons l'étranger comme le riche saoudien qui vient dépenser ses millions de dollars à l'hôtel Hyatt. Mais il y a aussi l'étranger qui se trouve à la frontière nord de la France, perdu dans les forêts de Sangatte ou de Calais, en train de crever de faim parce qu'il cherche à passer en Angleterre. Oh, cette condition est bien différente que celle qui est la nôtre quand nous partons en voyage de noces ou en vacances d'été. Nous ne sommes pas chez nous. Et ce monde est hostile à ceux qui sont véritablement à Christ. Et Christ nous avertit, vous aurez des tribulations dans le monde et les attaques sataniques, parfois décelables, non décelables, pardon, sont la manifestation la plus terrible. Et nous sommes appelés, chers amis, chers frères et sœurs, à reconnaître notre ennemi. Et nous avons vu combien le diable est un tentateur puissant, un tentateur hors norme hier soir. et nous avons exposé un grand danger auquel nous sommes confrontés. Mais il est grand temps maintenant de regarder d'une manière spécifique comment Christ a triomphé de notre ennemi, mais surtout de voir comment, dans un premier temps, l'œuvre de cet adversaire qui est le diable s'exerce contre nous afin que nous apprenions à le démasquer dans ses œuvres lorsqu'il agit contre nous. Et le texte que nous allons étudier maintenant, c'est « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé ». Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Regardons en détail ce que Christ veut dire à ses disciples au moyen de cette phrase. Et nous verrons quatre points. Le premier, c'est que le principal adversaire auquel Christ oppose sa prière, c'est Satan. Le deuxième, c'est que le groupe sur lequel se portent les revendications de Satan, ce sont les disciples. Enfin, nous regarderons l'épreuve que Satan se propose d'infliger aux croyants, à savoir les cribler comme le blé. Et pour conclure, nous verrons que le triomphe des croyants se retrouve au sein même de la revendication de Satan. Regardons premièrement donc le principal adversaire auquel Christ oppose sa prière. Il s'agit bien sûr de Satan. Satan est l'ennemi originel de Dieu. Et dans le jardin d'Éden, l'homme était encore dans son état de perfection lorsque Satan est venu le tenter. Nous avons vu hier un certain nombre d'informations sur cette déchéance, mais nous disposons finalement de peu d'informations sur ce qui constitue la chute du diable, et les passages bibliques qui nous la décrivent sont en définitive des descriptions allégoriques qui sont très débattues entre théologiens. Moi-même, je pense que Ézéchiel 28:16 et Ésaïe 14 nous décrivent avec plutôt beaucoup d'acuité cette chute de Satan, et quand vous regardez à Ézéchiel 28, vous apprenez les éléments suivants. Déjà, il a été créé par Dieu. C'est une créature, Ézéchiel 28:15. Et comme tout ce que Dieu crée, il a été créé parfait. Il était même, nous dit Ézéchiel 28:12, le sceau de la perfection, en quelque sorte quelque chose de vraiment beau par rapport à cette perfection. Et au moment de sa création, Ézéchiel 28:13, il se trouvait en Éden. Il était dans le jardin d'Éden, il était présent. Il était un chérubin protecteur, en contact avec Dieu, il était placé sur la sainte montagne de Dieu, Ézéchiel 28:14, et un jour, l'iniquité a été trouvée en lui, c'est-à-dire qu'il a chuté. Comprenez bien ce que je veux vous dire. La chute du diable a nécessairement précédé celle d'Adam et Ève, mais elle est forcément après les sept jours de la création. Dieu a créé le diable au même titre que l'ensemble de la création, d'une manière qui était absolument bonne et parfaite. Tout ce que Dieu fait est parfait. Quand il dit et la chose arrive, quand il ordonne et qu'elle existe, il le fait parfaitement. Tout ce qu'il crée est parfait. Il ne crée pas le mal, il n'est pas l'auteur du mal. Et lorsqu'il a créé le diable, il a achevé cette création, il a dit « Tout était très bon !» Mais entre le moment où tout était très bon et le moment où l'homme a chuté, le diable a chuté. Donc le diable a nécessairement chuté entre le septième jour et la chute de l'homme, dans ce laps de temps-là. La chute du diable a précédé celle d'Adam et Ève, et le premier ennemi de Dieu, son ennemi originel, ce n'est pas l'homme, mais c'est Satan. Il est l'ennemi originel de Dieu. Il est également le serpent ancien qui cherche à réduire à néant toutes les œuvres de Dieu et les êtres humains, y compris l'œuvre de Satan, comme nous l'avons vu hier soir, elle est particulièrement ciblée. Il cherche à s'emparer, si c'était possible, de la gloire de Dieu. Il cherche à prendre son trône, comme Isnogoud, qui voulait être calife à la place du calife. Lui, il veut être Dieu à la place de Dieu. Il n'a pas des petites ambitions, cet adversaire. Regardez l'homme impie qui est décrit par Paul en 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Il est décrit comme l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, se proclamant lui-même Dieu. On parle de l'homme impie ici. À combien plus forte raison l'adversaire qui lui conférera sa puissance cherche-t-il à se couvrir d'un tel nom ? L'homme est la manifestation ultime et créationnelle de la gloire de Dieu. Il est l'image de la gloire de Dieu, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa gloire. Le psaume 8 nous dit que tout a été mis sous ses pieds à la création. De sorte que c'est pour cette raison que le diable va le cibler avec une telle rage et chercher à lui faire une balayette pour le faire tomber à terre, de façon à ce qu'il ne se relève plus. Le serpent ancien cherche à réduire à néant toutes les œuvres de Dieu. Prenez garde au serpent, laissez-lui seulement passer le bout de sa tête, et il cherchera à faire rentrer son corps tout entier. Il est également l'imposteur qui porte un déguisement d'ange de lumière, comme nous en avons dit quelques mots hier. Vous savez, j'aime bien regarder des films. Il faut avouer que plus je regarde de films et le temps passe, plus je suis déçu par leur manque de réalisme. Récemment, je regardais un film américain, un film d'action. Je crois que c'était G.I. Joe, un truc comme ça. C'était vraiment nul. Je crois que c'était même le 2. Généralement, les suites sont moins bien faites que le premier. Mais ce qui m'a juste frappé, c'est qu'ils avaient une technologie qui leur permettait de prendre la parfaite apparence et la parfaite voix d'un autre individu. Et le gars, genre, il avait pris l'apparence du président des États-Unis, tu vois. Et genre, il contrôlait le monde, quoi. Ni vu ni connu. Non, mais truc de fou, n'importe quoi. Mais nous, on va voir des films où on regarde des niaiseries pareilles. OK ? Mais il y a une réalité dans le cœur de certains, c'est que Satan cherche à se faire passer pour Dieu afin de mieux s'opposer à lui. Et nous, on va voir G.I. Joe, on dit oh, « n'importe quoi hein. ». Et on sort de là et on gobe la grosse pilule qu'il nous met parce qu'il se fait passer lui-même pour Dieu et c'est pas un film. On est en train de vivre une existence où Satan se fait passer pour un ange de lumière et on le gobe et jusqu'au trognon on le mange. Un gros bobard comme ça. Et c'est pourquoi Paul avertit les Thessaloniciens de ne pas se laisser ébranler dans leur bon sens parce que la puissance de Satan se manifeste, je cite, « avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Vous voulez être sauvés, vous ne pourrez pas l'être si vous n'avez pas reçu l'amour de la vérité. C'est impossible. Rendez gloire à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça vient de lui, ça ne vient pas de vous. Vous n'avez aucune puissance en vous-même pour vous tourner de vous-même vers Dieu. L'imposteur porte un déguisement d'ange de lumière et va chercher à vous attirer derrière toutes sortes de fausses lumières. Comme le papillon qui va se perdre dans le spotlight, tout simplement parce qu'il cherche la lumière du jour, mais il est incapable de la trouver naturellement, parce qu'il est aveugle et ne sait pas distinguer les sortes de lumière entre elles. Rendez gloire à Dieu qui vous rend capable de venir à lui et comptez vraiment sur lui pour distinguer le faux du vrai. Oh, comme vous avez besoin de connaître la parole de Dieu afin de discerner le diable dans ses œuvres quand il vient vous susurrer à l'oreille que Dieu vous a dit de faire ceci ou de faire cela. Dieu a-t-il vraiment dit ? Voilà la première question des Écritures. Dieu a-t-il vraiment dit ? Oui. Mais encore faut-il le connaître. Il est également le lion rugissant. La Bible nous le décrit comme un lion, décrit sous toutes sortes de formes, serpent, dragon, lion, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais il est un lion rugissant. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé comment fonctionne la famille d'un lion. Il y a une grande analogie avec les gens de ce monde, puisque, n'est-ce pas, le lion passe sa journée à rêvasser et à dormir, tandis que la lionne va chasser. C'est extraordinaire comment on voit aujourd'hui comment le monde moderne tourne. Alors que les femmes réclament l'égalité avec les hommes, je ne les ai jamais vues aussi stressées et aussi accablées de fatigue, bosser comme c'est pas permis, là où ça serait plutôt à l'homme de se mettre en avant et de prendre les coups pour sa famille et de montrer ce que ça veut dire être un mec, quoi. C'est un autre sujet. Mais quand vous regardez les femmes aujourd'hui qui bossent comme un homme, qui sont en moyenne payées 20% de moins, qui doivent en plus élever leurs enfants et tenir leur rôle de mère, mais comment vous voulez gérer ça ? Marie, aimez vos femmes. Quand vous regardez une meute de lions, généralement, vous vous rendez compte que les lions, lorsqu'ils veulent attaquer leur proie, ils commencent par leur faire peur pour les faire suivre. Pour les faire fuir, pardon. Et avec un gros rugissement, toutes les bêtes de la forêt s'épouvantent et s'enfuient. Et il fait beaucoup de bruit, le diable. Il est terrifiant. Et s'il crie dans une direction, vous fuirez dans l'autre et c'est là qu'il vous attendra pour vous croquer. Il cherche à vous dévorer, il vous fera peur pour vous emmener directement dans sa gueule. Prenez garde au lion rugissant qui rôde autour de vous. Dites-vous une chose, chers amis, l'ennemi de Christ est également notre ennemi. Il a attaqué le premier Adam dans un jardin dès le commencement, et il est venu tenter le deuxième Adam dans un jardin juste avant la crucifixion. Il a réussi la première fois, mais grâce soit rendue à Dieu, il n'a pas réussi la seconde. Sa persévérance à vouloir voler la gloire de Dieu le pousse à être l'ennemi de tout ce qui reflète la gloire de Dieu. Comme il était l'ennemi du premier Adam et de sa descendance, Il sera l'ennemi du deuxième Adam et de tous ceux qui se confient en lui. Si vous êtes à Christ, ne vous étonnez pas d'être attaqué. Si vous êtes à Christ, ne vous étonnez pas d'être affligé. Si vous êtes à Christ, vous souffrirez des attaques du diable parce qu'il est votre ennemi. Voilà la réalité. La deuxième chose que j'aimerais relever et que j'aimerais regarder avec vous, c'est le groupe sur lequel se portent les revendications de Satan. Et ce groupe, ce sont les disciples. Satan a de la haine pour l'ensemble des disciples de Christ. Et il est dit dans notre texte, Satan vous a réclamé. Il est dit que Christ a prié spécifiquement pour Pierre et a d'avance prévenu de son reniement, mais c'est tous les disciples qui sont dans la ligne de mire de Satan. Tous les disciples étaient réclamés pour être passés au crible comme le blé. Tous les disciples allaient souffrir au moment où le divin berger allait être frappé. Oh, certainement, ils se prenaient pour des super beaux gosses, les disciples. Ils pensaient peut-être être des gens forts qui allaient protéger Jésus. Ils se voyaient 12 autour de lui, 12 gardes du corps, tu vois. Mais en réalité, regardez comment ça se l'est passé. Juste avant de mourir, sur la montagne des Oliviers, Jésus le leur avait dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, et ici c'est une prophétie, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Prophétie issue de Zacharie 13. C'est prophétique, les amis. C'est prophétique que vous tous qui êtes autour de moi, vous allez vous faire frapper et vous allez vous disperser. C'est écrit. Je serai pour vous tous cette nuit, chers disciples, une occasion de chute. Et voici l'accomplissement de ces paroles. Juste au moment où Judas livre Jésus à la troupe qui vient le saisir, il est écrit, « Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Pas un n'est resté avec lui. Ils se sont tous sauvés quand la cohorte est venue l'arrêter. » Les prétentions de Satan s'exercent sur ce qu'il ne possède pas. Vous avez certainement entendu cette histoire qui a défrayé la chronique récemment, à propos d'un dénommé Bernard Tapie. Bon, je dirais que Bernard Tapie, d'une manière générale, à chaque étape de sa vie, il a défrayé la chronique. Mais récemment, il a cherché à recouvrer ses biens. Vous savez, ça a une procédure qui a duré assez longtemps. Il s'estimait spolié par le Crédit Lyonnais dans l'histoire de la vente d'Adidas. Et quand M. Sarkozy est passé président de la République, la ministre, Christine Lagarde, a obtenu une conciliation avec lui. Il y a eu un jugement, un tribunal arbitral qui s'est passé dans des bureaux. Ça ne s'est pas fait en public. Et il a récupéré, si j'ai bonne mémoire, 440 millions d'euros. Cet argent, il a cherché à le récupérer parce qu'il estimait qu'il était le sien. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe. Le nouveau gouvernement estime qu'il y a une fraude. À raison ou à tort, ce n'est pas le problème de faire la lumière sur cette histoire, mais estimant qu'il y a eu une fraude, il cherche à récupérer l'argent que M. Tapie aurait, selon eux, reçu indûment. Mais est-ce que vous imaginez un seul instant que M. Tapie va dire « Ouais, mais il n'y a pas de problème, prenez, je vous le rends. » Jamais de la vie. Il va se battre. Il va chercher à conserver son pognon. Il va dire mais c'est à moi. Laissez-le. Et faites une analogie de cette histoire. Satan est le prince de ce monde. Tout ce que ce monde renferme lui est laissé en gestion à une seule exception, ceux qui viennent d'être arrachés de sa main par la puissance du sacrifice de Christ. Mais est-ce que vous croyez qu'il va se laisser faire au point de se faire enlever ce dont il a la possession? Mais il va se battre. Il va chercher à vous récupérer, si c'était possible, de toutes ses forces. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont tout simplement changé de propriétaire. Ils ne lui appartiennent plus. Il n'est pas étonnant dès lors que les réclamations de Satan soient de plus en plus violentes, de plus en plus spécifiques, de plus en plus sournoise, de plus en plus ciblée. Il ne vous lâchera pas. Et il le fera tout en douceur en plus. Les prétentions de Satan s'exercent sur ce qu'il ne possède pas ou sur ce qu'il risque de perdre. Et les prétentions de Satan se focalisent sur l'ensemble du corps de Christ. Le diable et ses équipes s'en prennent à l'ensemble du corps de Christ. Tous ne sont pas éprouvés d'une même manière ni au même moment. Pour certains, vous rentrez dans la vie chrétienne et directement vous êtes plongé dans les épreuves. D'ailleurs, vous en aviez peut-être avant. Et vous galérez parce que le diable vous attaque, il tourne autour de vous, vos circonstances vous accablent. On parle avec Gabriel, on a une amie en commun, une jeune chrétienne qui s'est convertie, sa situation familiale, franchement, mais c'est... Laisse tomber, quoi. Franchement, rien que d'y penser, ça me met une boule dans le ventre. Je me dis, mais comment elle fait pour vivre ça? Moi, je ne tiendrai pas 10 minutes. Mais aucune tentation ne nous est survenu qu'une été humaine, et Dieu la construit sur mesure, et avec la tentation, il donne toujours le moyen d'en sortir. Les prétentions de Satan se focalisent sur l'ensemble du corps de Christ. Peut-être vous commencez votre vie chrétienne dans l'épreuve, et peut-être que c'est une mer d'huile. Peut-être que vous n'êtes pas du tout éprouvé, et vous vous dites, finalement c'est bien la vie chrétienne. Il y avait un jeune couple en Belgique, je leur avais dit, le mariage n'est pas toujours une partie de plaisir. Il est possible que vous soyez éprouvé quand vous serez marié. Et récemment, je les ai revus, ils m'ont dit, pourquoi tu nous as dit ça? C'est trop cool d'être marié, ça fait un an. T'aurais jamais dû nous dire ça. Et ils étaient un peu fâchés quand même. Hein. Je leur ai dit, je suis désolé, je pensais pas que ça se passerait si bien. Je leur ai pas dit ça, je rigole. Non, je leur ai dit, je suis désolé, écoutez, mais sachez que vous en êtes à un an de mariage. Soyez vigilants. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain. N'avez-vous jamais entendu parler de ces couples dans le monde et même malheureusement dans nos églises qui, au bout de 20 ans de mariage, divorcent? Est-ce que vous croyez que demain sera comme aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des circonstances qui peuvent venir accabler votre couple ou quoi que ce soit dans votre vie? Un jour, tout va bien, le lendemain, tu es frappé par une maladie rare. Tu peux bosser 10 ans de ta vie et puis le lendemain, comme Louis Pelzer est frappé par une myopathie, tu ne peux plus avancer, ta femme meurt de faim parce qu'elle n'a aucun travail. Tu fais quoi dans ces cas-là? J'avais entendu parler d'une fille quand je travaillais à la poste. Travailler à la poste, le truc de pléonasme, tu vois, excusez-moi. Quand j'étais à la poste, j'avais entendu parler d'une fille qui avait un enfant. Son mari s'était barré et l'enfant avait déclaré une maladie rare. Quand elle s'était pointée pour faire diagnostiquer cette maladie, dont j'ai oublié le nom, il s'est avéré que c'était une maladie qui n'était pas remboursée par la sécurité sociale. Parce que rare, et oui, ça existe. Aussi loin que je me souvienne, elle passait son temps à travailler pour payer les soins à son fils. Elle s'était endettée pour cela. Qui sait de quoi demain sera fait? Cette vie est un passage. Tu peux commencer ta vie chrétienne avec une mer d'huile. Tout va bien. Ça vogue sur les flots, Les voiles sont déployées et j'avance. Merci Seigneur, c'est merveilleux avec toi. On est sur ce dance floor, on avance ensemble. Et puis un jour, la musique s'arrête. Et tu te rends compte, c'est quoi la vraie vie, quoi? La vie n'est pas simple. Elle n'est pas funky. La vie est parfois bien compliquée. Parce que Satan te tourne autour et souffle le chaud et le froid. Et il arrive un moment donné où par la grâce de Dieu, tu es éprouvé. Les prétentions de Satan s'exercent sur l'ensemble du corps de Christ à différents moments, mais prenez garde. Prenez garde. On dit que l'armée d'Israël est la plus forte du monde. Pourquoi? Parce que c'est un gros pays? Certainement pas. Parce qu'ils sont super plus musclés que les autres? Certainement pas. Parce qu'ils ont du meilleur matos? C'est possible. Mais surtout parce qu'ils sont en permanence en état d'alerte depuis plus de 70 ans. En permanence une menace intérieure et extérieure, en permanence en état de vigilance. Dites-vous une chose, ceux qui en veulent à Israël, ils dorment la nuit. Mais nous avons en face de nous une armée qui ne dort pas et qui a un seul but, nous tenter et nous faire chuter. Nous sommes la citadelle la plus assiégée au monde, nous sommes le corps de Christ. Personne ne déploie une telle puissance que ceux et celui qui veulent nous faire déchoir de notre position que nous avons en Jésus-Christ. Oh, comme notre vigilance doit être grande jusqu'au bout, chers amis. Comptons sur Christ, mais ça ne nous empêche pas de veiller et de prier, ça ne nous empêche pas d'être au clair sur les motivations et les influences de Satan. Prenons garde aux luttes intérieures, prenons garde aux luttes extérieures. Tirez cette analogie de l'armée d'Israël. Êtes-vous puissant dans votre vie chrétienne? Est-ce que Christ est présent là et là? Troisième chose que j'aimerais noter concerne l'épreuve que Satan se propose d'infliger aux croyants. L'épreuve que Satan se propose d'infliger aux croyants, c'est-à-dire les cribler comme le blé. Alors, cribler, c'est une illustration tirée de l'agriculture. Vous connaissez certainement l'expression être criblé de balles. Je voulais vous faire une démonstration pratique, mais je n'ai pas trouvé de revolver pour flinguer quelqu'un. Mais cribler comme le blé était une opération qui consistait auparavant à faire passer le blé dans un outil qu'on appelle le crible et à le secouer violemment, puis de le jeter en l'air. En gros, c'est une sorte de tamis, ça ressemble à un tamis. Il secouait violemment comme ça et ça séparait en fait la ce qu'on appelle la balle et du grain. En fait, tout ce qui était autour du grain, les impuretés et la feuille, étaient séparés dans un coin et la balle qui était lourde était mécaniquement, manuellement, mais par le moyen de secouer, était séparé l'un de l'autre, puis vous jetiez en l'air. Et en fait, le grain est plus lourd que ce qui l'entoure. Et soit vous aviez le vent, et en le jetant, ça séparait le grain et les impuretés de la balle. Soit vous aviez un outil qui s'appelle un van. Un van, c'était une espèce de grosse hélice que vous tourniez manuellement, qui crée un vent artificiel, si je puis me permettre. Et ce van-là vous permettait de séparer la balle du grain. Donc vous deviez à la fois manœuvrer votre vanne d'une manière harmonieuse pour que ça produise la bonne quantité de vent et jeter, offrir au vent tout ce que vous aviez criblé de façon à ce que les impuretés s'en aillent et que seul le bon grain reste. C'est l'image qui est systématiquement utilisée quand Dieu veut séparer le bon grain de l'ivraie. Typiquement, Amos, le berger de Tekoa qui prophétise contre Israël au nom de l'Éternel, il dit « Je donnerai des ordres, je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations » comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Criblé comme le blé, séparé de ce qui est pur de ce qui ne l'est pas, séparer le bon grain de l'ivraie, et mettre de côté, et amasser dans ses greniers, le bon grain. Mais en gros, qu'est-ce que Satan est en train de demander à Dieu, en lui demandant de cribler les disciples comme le blé? Il leur dit en quelque sorte, secoue les fondements de leur vie! Et tu verras que leur foi n'a rien à voir avec le bon grain, mais qu'elle n'est qu'impureté. Frappe-les dans leurs circonstances, et tu verras qu'ils ne te resteront pas fidèles. Touche à leur sécurité, touche à leur confort, touche à leur bien, touche à leur nourriture, et tu verras qu'ils te renieront. Ils n'ont pas plus de persévérance qu'en avait Adam. Laisse-moi les éprouver, et tu verras qu'ils brûlent plus vite que la paille. Crois-tu qu'ils te craignent d'une manière désintéressée? Mais étends ta main, touche à tout ce qui leur appartient, tout ce qui constitue leur vie, et tu verras qu'ils te maudiront en face. Ça vous dit rien, ça? Et si jamais ils demeurent dans leur intégrité, alors, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Le crible de Satan. La démonstration que notre foi n'est que paille, et nos œuvres ne sont que chaumes prêtes à brûler au feu. Satan s'attaque à l'authenticité de la foi des croyants. Regardez ce qu'il fait avec Job. Il commence par l'attaquer avec la perte de ses fils, de ses filles, de tous ses biens. À chaque fois, il n'y en a qu'un seul qui revient, qui dit « Je suis revenu moi seul, mais tout ce à quoi tu comptais a été consumé. » Et Job s'assoit et dit « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel donne, l'Éternel ôte. » Que le nom de l'Éternel soit béni. Il est écrit qu'en tout cela, Job n'attribua rien de scandaleux à l'Éternel. Et même quand sa propre femme vient à côté de lui et lui dit « Maudit Dieu et meurs !» Mais vous vous rendez compte de ça? Imagine-toi, tu as un conjoint, une mère, un père, tu es en train de souffrir le martyr et à côté de toi, tu as la personne qui est la plus chère à tes yeux, la prunelle de tes yeux, qui te dit « Mais maudit Dieu et meurs !» Mais comment tu réagis dans un cas comme ça? Et comme si ça ne suffisait pas, le diable revient un jour se présenter devant Dieu, normal quoi. T'as vu, hein, il t'a pas renié, mais touche à sa vie, touche à son corps, ruine-le jusque dans sa santé, et tu verras qu'il t'oubliera. Et Dieu dit, mais vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Et l'ulcère malin sur lequel il a été affecté, je peux vous dire que ça doit être quelque chose. Récemment, j'ai eu un eczéma. Eczéma, pour ceux qui ne connaissent pas, ça gratte. Et j'ai eu un eczéma au niveau des pieds. Entre les doigts de pied, truc de ouf. Genre, t'es au travail, tu vois, t'es en train de bosser, et tout d'un coup, une démangeaison qui te prend entre les doigts de pied, mais un truc de ouf. Alors, t'es là, arrête. Et si t'as des chaussures coquées un peu, tu vois, t'es dégoûté. Mais c'était violent, et figurez-vous que cet eczéma s'est surinfecté. Je prenais tout ce que je pouvais pour me gratter tellement j'avais mal jusqu'au sang. Mais imaginez-vous que Job, l'ulcère malin dont il a été recouvert, à l'aide de la plante des pieds jusqu'en haut du crâne et qu'il se grattait avec un tesson de bouteille. Et vous avez ses amis qui viennent et puis qui lui disent « Oui, c'est parce que tu as péché que tu es comme ça. » Mais vous vous rendez compte, le truc de ouf, quoi. Mais c'est dingue, quoi. C'est vraiment dingue, quoi. Mais il a tenu ferme. Il a tenu ferme par la puissance de Dieu. Adam a manqué de persévérance lorsqu'il s'est agi d'obéir au commandement de Dieu. Est-ce que nous aurons plus de persévérance lorsque l'ensemble de nos fondements s'écroulent, lorsque nous subirons le test de notre foi à cause des revendications de Satan? Qui sait jusqu'où ça ira? Est-ce que vous seriez capable de supporter le tesson de bouteille et la démangeaison jusque derrière vos yeux? Serons-nous comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon, ou serons-nous comme le blé amassé dans les greniers du Seigneur, ou comme la paille qu'il brûlera dans le feu qui ne s'éteint point? Le crible de Satan, chers amis, n'est pas toujours celui que l'on croit. Dans un certain sens, il serait parfois préférable d'être éprouvé comme Job, parce qu'au moins la tentation, elle serait manifeste, elle serait en pleine tête, elle serait claire. Mais C.S. Lewis, dans son ouvrage Tactique du diable, nous montre que Satan ne cherche pas nécessairement à nous faire tomber dans des péchés spectaculaires, mais à nous engourdir par des iniquités qui paraissent parfois insignifiantes, qui paraissent parfois des petits péchés, quoi. Et un petit péché, un deuxième petit péché, un troisième petit péché, et tout doucement tu t'endurcis sans même t'en rendre compte. Et puis un jour tu ne pardonnes plus. Et puis un jour tu ne pries plus. Et puis un jour tu n'es plus en relation avec Dieu, quoi. Tu n'as rien fait de scandaleux. Juste une succession de petits péchés qui t'amènent à apostasier. Nous devrions prendre garde au corps entier du péché et non pas à ses manifestations les plus spectaculaires. Comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, « Afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, prenez garde à ce que personne ne vous séduise, dit également Jésus-Christ. » Chers amis, la cire d'une bougie ne s'endurcit que dans la mesure où elle se refroidit. Et des fois, la flamme vivote longtemps avant de s'éteindre. Prenez garde aux petits péchés. Ils sont un sacré fondement sur lequel Satan vient en établir de bien plus gros. Prenez garde à vous-même. La quatrième chose que j'aimerais relever, quatrième et dernière chose, est finalement le triomphe des croyants qui se retrouvent au sein même de la revendication de Satan. Le triomphe des croyants qui se retrouvent au sein même de la revendication de Satan. Et regardez avec moi ce que dit le texte. Oui, c'est accablant. Oui, c'est éprouvant. Oui, c'est terrifiant. Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme Job. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme Pierre. Mais il vous a réclamé. Il vient réclamer auprès de Dieu l'autorisation d'agir. Oui, Satan est une créature particulièrement dangereuse et terrifiante. Oui, il est bien plus fort que nous. Oui, il parcourt toute la terre en quête d'âmes qu'il pourrait emporter avec lui dans ce feu dévorant. Il est bien plus malin que nous le sommes. C'est une créature surnaturelle, profondément intellectuelle. Et les chrétiens se divisent bien souvent pour des queues de cerises. Mais le royaume de Satan n'est pas divisé contre lui-même. Son unité maléfique avec les démons, c'est l'une des grandes sources de sa force. Mais voici ce que Jésus déclare aux disciples. Satan vous a réclamé. Le prince des ténèbres demandera-t-il l'autorisation d'agir? N'a-t-il pas toute la latitude de faire tout ce qu'il veut? Est-ce qu'il ne peut pas tout parcourir toute la terre à sa guise? Non, il vous a réclamé. Satan vient auprès de Dieu demander l'autorisation d'agir, comme Laurent demande à sa maman l'autorisation de sortir. Pensons-nous que quoi que ce soit dans les cieux et sur la terre ne se fasse sans que Dieu ne le décrète? Rien. Tout est l'objet d'un décret éternel de Dieu. Rien ne se passe sans qu'il le veuille. Vous aviez médité de me faire du mal, dit Joseph à ses frères, mais Dieu l'a transformé en bien. Il ne peut rien faire en dehors des décrets souverains de Dieu. Alors que Pilate déclare à Jésus qu'il a le pouvoir de le crucifier comme de le relâcher, Jésus lui répond « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné en haut. » Même les gens les plus maléfiques de cette terre ne peuvent rien faire sans la permission explicite de Dieu. Frères et sœurs, Satan n'a sur nous aucun pouvoir autre qu'il lui ait été donné par celui qui nous a sauvés. Deux fois, il s'est présenté devant Job pour lui faire passer sur lui le tsunami de l'épreuve. Deux fois, il n'a pas pu toucher à sa vie. Il ne peut pas agir en dehors des limites que Dieu lui-même lui a fixées. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est possible de supporter la tentation, c'est possible de supporter l'épreuve. Si vous la vivez, c'est qu'elle est sur mesure. Personne ne pourra la supporter mieux que vous, puisque Dieu l'a décrété. Satan ne possède pas d'autre attribut que ce que Dieu lui a donné. On prête parfois plus de puissance à l'adversaire qu'il n'en a réellement. Typiquement des choses du style qu'il est partout en même temps. Où est-ce que vous voyez qu'un ange est omniscient et omniprésent? Jamais. Il n'est pas partout en même temps. Il n'est pas tout le temps autour de vous en train de vous chatouiller les oreilles ou de vous tenter. Deuxièmement, il ne lit pas dans vos pensées. Dieu, par contre, le peut. Souvenez-vous qu'une pensée pour Dieu est une parole. Souvenez-vous de ceux qui ont fait la semaine de Montreuil, de ce petit exercice que nous a proposé Manuel Brambilla. Il nous a dit, si vous vous ouvriez le crâne, j'ai trouvé ça excellent, ouvrez-vous le crâne et placez-vous une puce dans votre crâne, dans votre cerveau, puis refermez. Pendant 2 ans, vous gardez cette puce qui va enregistrer toutes vos pensées. Et au bout de 2 ans, vous retirez la puce et on fait une projection privée devant tous les membres de votre famille. Vous êtes chaud ? Je pense que personne dans ce monde ne serait chaud. Excellent moyen de montrer combien nos pensées sont pécheresses. Mais Satan, lui, ne peut pas voir ça. Oh, il décodera parfaitement nos mouvements extérieurs, nos moindres battements de paupières, mais il n'est pas capable de décoder nos pensées. La puissance de Satan et l'ensemble de ses attributs qui lui sont confiés sont le fruit d'une communication divine. Il ne peut rien faire sans Dieu. Il est aussi soumis que nous à sa suprématie en toutes choses. Il n'est rien de moins qu'une créature de Dieu soumise à la suprématie absolue, à la souveraineté absolue de Dieu. Il n'est certes le prince de ce monde, mais il n'en est certainement pas le roi. Le duc de Cambridge, le prince William, s'est marié et a même eu un bébé récemment, et il jouit d'une grande popularité en Angleterre. Mais tant qu'il n'est pas roi, il n'a aucun réel pouvoir. Peut-être un jour il sera appelé à régner. Mais tant qu'il n'est pas roi, il n'a aucun réel pouvoir. Et Satan n'a même pas un tiers du quart de l'autorité du prince William. Il n'est rien moins qu'un prince en exil, un vassal en disgrâce auprès de son maître, un ange déchu dont la fin est arrêtée. Et il le sait, c'est pourquoi le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps, il s'agite, il gigote, il fait toutes sortes de choses pour nous amener à déchoir, si c'était possible, du trône de grâce qui est en Jésus-Christ et sur lequel nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Mais est-ce qu'il le peut seulement? S'il s'agite de la sorte, c'est qu'il sait que sa fin est arrêtée. Réjouissez-vous, chrétiens. Il ne peut pas aller au-delà des limites que Dieu lui a fixées. Il vous tient dans sa main. Et rien ne se passe sans sa totale autorité, sans sa totale volonté, sans son absolue souveraineté. Vous n'êtes pas en dehors du plan de Dieu si vous êtes en Jésus-Christ. Toute chose concourt réellement à votre bien, même le diable. Mais êtes-vous en Jésus-Christ? Est-ce que vous aimez réellement Dieu? Est-ce que c'est la première chose de votre vie? Finalement, Satan, c'est un petit personnage qui sait comment produire une grande ombre. Je me souviens, quand on était en primaire, on avait toujours 2-3 guignols, quand on faisait une projection, qui faisaient des trucs avec leurs mains, genre un âne... Mais finalement, est-ce que le lion rugissant ne serait-il pas en réalité un gros chat qui saurait bien jouer de la lumière? Ma sœur, elle a un chien. Franchement, j'ai horreur de ce chien. Il est tout petit, mais tout petit. Tu l'as vu, Gabriel? Il est tout petit, il est noir. Hein, tout petit. Mais quand il aboie, t'as l'impression d'avoir un gros berger allemand, tu vois. Tu te dis, mais... Si tu vois pas le chien, tu te dis, mais il fait peur, quoi. Quand tu vois le chien, t'as juste envie de lui mettre un coup de botte. Mais la réalité, c'est que Satan, dans un sens, il est un peu comme un gros chat qui sait bien se placer dans la lumière, et au lieu de faire miaou, il fait... Et du coup, tout le monde se décompose. Mais en vrai, est-ce qu'il ne serait en réalité qu'un gros chat qui saurait bien jouer de la lumière? Il est temps maintenant de conclure cette première partie. Ne vous laissez pas impressionner. Certes, notre adversaire est puissant, mais il est déjà vaincu. Christ lui a déjà écrasé la tête, comme on le disait hier soir, au moment de sa crucifixion, au moment de sa résurrection, et il le fera une fois pour toutes au moment du jugement éternel. Il ne peut pas te faire autre chose que ce que Dieu veut qu'il te fasse. Rien en dehors de la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu va être surpris de quoi que ce soit sur cette terre ? Est-ce que vous pensez quoi que ce soit qui vous arrive se passe en dehors de sa volonté? Satan aussi travaille pour Dieu. Il est insensé, celui qui s'attaque à la gloire de Dieu. Il est fou. Personne ne peut diminuer la gloire de Dieu. Comme le dit C.S. Lewis, croire qu'un homme peut diminuer la gloire de Dieu en ne croyant pas en lui revient à croire qu'un homme peut diminuer la lumière du soleil en écrivant ténèbres sur le mur. C'est stupide de vouloir s'attaquer à la gloire de Dieu. C'est vain, c'est inutile. Il est le créateur de toutes choses. C'est comme si vous étiez en train, par exemple, je ne sais pas moi, de construire, j'en ai aucune idée, moi, vous installez cette clim au mur, et tout d'un coup, la clim a dit « Ouais, bah, je vais me battre avec toi maintenant. » N'importe quoi. Ça, c'est absurde de penser une chose pareille. Rien n'échappe à la glorieuse suprématie sur toute chose de notre Dieu. Rien ni personne ne pourra s'opposer à son plan, même le mal le plus grand. Satan a planifié de crucifier la gloire de Dieu avec le corps entier de Christ sur la croix. Qu'est-ce qu'il a obtenu sinon notre rachat? Et reconnaissez que bien souvent, il nous a fait prendre un plutôt bon tournant quand il a voulu nous tenter. Chaque fois que ça nous a conduit à la repentance, par exemple. Qui s'opposera contre nous si nous avons pour nous le Dieu qui change le mal en bien? Tes épreuves, mon ami, sont sur mesure. Revenons à l'illustration du crible. J'ai entendu une magnifique histoire il y a quelques années de cela. Le pasteur que j'avais quand je suis venu à la foi avait un papa qui était très attiré par tout ce qui était agriculture et qui était parti dans l'est de la France et qui avait vu un pasteur qui s'appelait Jobreau Renault qui était aussi agriculteur. Ça existe. Le gars bossait 14 heures par jour et trouvait encore le moyen de prêcher le dimanche. Et ce monsieur Jobreau Renault un jour était en train d'utiliser un van et quelqu'un jetait le blé devant lui avec une pelle. Et les grains passaient devant le van et le grain retombait à terre tandis que la paille était poussée au loin par le vent. Alors Raymond Touche a dit à Jobreau Renault: mais qu'est-ce qui se passe si tu tournes le van un peu trop vite? Si le vent souffle un peu trop fort? Alors Jobreau Renault, il a dit: dans ce cas, le grain sera emporté avec la balle et il ne retombera pas à terre parce que le vent sera trop fort. Et Raymond lui a dit: mais si tu tournais pas assez vite la roue du van, qu'est-ce qui se passerait? Dans ce cas, le vent ne serait pas assez fort et le grain retomberait à terre avec la balle. Dieu dose le juste vent de l'épreuve pour ta situation afin que tu sois un vase d'or pur, purifié par le feu. La fournaise de Dieu est à la juste bonne température pour toi. Et on se dit parfois: mais qu'est-ce qui m'arrive? J'arriverai jamais à porter ça. Dieu l'a voulu. Et s'il se tiendra debout, il se tiendra debout parce que son maître le veut. Chaque croix est sur mesure. Je ne peux pas porter la tienne. Tu ne peux pas porter la mienne. C'est du coup humain sur mesure pour toi. Alors n'ignorons pas la stratégie de Satan. Qu'est-ce que Satan voulait faire en criblant les disciples? Il cherchait à les disperser et à les éloigner de Christ. Quand la meute de lions attaque l'éléphant, il ne va pas s'attaquer au troupeau d'éléphants, mais en rugissant, tout le monde va s'enfuir et l'animal faible et blessé qui va rester à la fin du troupeau, c'est celui-là qui va se faire croquer. Vous connaissez la chanson, hein? Satan vous attaque, tous les chrétiens sont méchants, tout le monde m'en veut et je m'éloigne de l'église. Vous la connaissez celle-là? Satan vous attaque, celui qui est attaqué se dit: tous les chrétiens sont méchants, je suis tout seul, personne n'est tenté comme moi, tout le monde m'en veut et je m'éloigne de l'église. Bien souvent, les attaques de Satan sont une source de s'éloigner du corps de Christ. Et il cherche toujours à nous rôder autour, à prendre celui qui est le plus faible, à l'éloigner du troupeau, de sorte que nous devrions faire bien attention à nous garder ensemble les uns des autres. Et malheur à vous si vous cherchez à éloigner un chrétien du corps de Christ pour quelque raison que ce soit, amertume ou colère. Malheur à vous si vous cherchez à éloigner un chrétien du corps de Christ, car le corps de Christ est pour les plus faibles d'entre nous et nous sommes appelés à rester ensemble. Je vous cite Charles Spurgeon pour finir. Satan a toujours de la haine pour les rassemblements chrétiens. C'est sa politique que de pousser les chrétiens à s'isoler. Il fait ses délices de tout ce qui peut séparer les saints les uns des autres. Il attache bien plus d'importance aux relations de piété que nous n'en accordons nous-mêmes. Puisque l'union fait la force, il fait de son mieux pour promouvoir la séparation. C'est pourquoi pardonnons-nous les uns les autres, car nous n'ignorons pas ses desseins. Si nous connaissons les desseins de Satan, Si nous apprenons par l'usage à les discerner, alors pratiquons l'évangile. Pratiquons 2 Corinthiens 2, 10, 12, que nous lisions hier. À qui vous pardonnez, dit Paul, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Prions. Père Céleste, merci de nous avoir rappelé que c'est un adversaire puissant que nous avons en face de nous, qui cherche à nous éloigner du troupeau pour mieux nous dévorer, qui cherche à nous cribler comme le blé, à mettre en cause et en doute l'authenticité de notre foi, qui cherche à nous faire déchoir de ce trône sur lequel nous sommes déjà assis avec toi dans les lieux célestes, qui cherche à nous faire tomber à terre, Seigneur, parce qu'il s'en prend à ta gloire et qu'il en veut à ta personne, celle de Christ qui est venu dans ce monde. Père Céleste, merci parce que rien n'est dissocié de ta souveraineté et de ta suprématie absolue, de sorte que ce qui nous arrive, Seigneur, nous pouvons avoir confiance que tu le fais parfaitement pour notre bien. Merci parce que tout ce que tu fais est parfait. Merci parce que ta gloire surpasse toute intelligence. Merci parce que ta grâce nous entoure si nous sommes à toi. Et je te prie pour que nous ne puissions pas partir de ce week-end, de ce camp à Écouen, sans en savoir davantage sur les ruses et les œuvres de Satan, et sans avoir dans notre cœur la ferme résolution de compter sur toi d'heure en heure pour résister à ces traits enflammés par la connaissance de Jésus-Christ qui se renouvelle en nous et par le casque du salut que tu nous accordes à cause de son œuvre à la croix. Seigneur, que ton nom soit glorifié maintenant. Prépare encore la suite de cette journée et encourage-nous ensemble au nom de Jésus. Amen.